بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, le samedi 21 du mois de l'Hijja, de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 7 juin 2026. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de poursuivre ensemble notre lecture et étude de cette risala, cette épître, de notre noble cheikh, al-cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance. Cette risala qui est très profitable, comme vous avez pu le constater, et je ne me rappelle pas combien de cours on a fait jusqu'à présent, lakin, elle est remplie de science, alors que c'était tout simplement une conférence que Cheikh Hafidhahullah a donnée. Lakin, ça décrit d'une manière claire ce que c'est l'islam dans toute son authenticité, et dans toute sa beauté, et dans toute sa clarté. Cet islam authentique qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été suivi avec une grande fidélité par les nobles compagnons, qu'Allah les agrée. C'est eux qui ont le mieux compris cette religion, car ils ont pris leur compréhension directement du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux et le prophète sallallahu alayhi wasallam. Ils l'ont entendu donner des enseignements, et ils l'ont vu pratiquer ces enseignements par lui-même alayhi salatu wassalam. C'est pour ça leur compréhension est indispensable afin d'être dans l'islam qu'Allah agrée et aime pour cette communauté. Le seul moyen pour que cette communauté, allez, je parle du cramponnement à cet islam étant authentique qui est unique, c'est le seul moyen pour que cette communauté retrouve son statut élevé et son rang haut parmi les autres communautés. Il n'y a pas moyen d'y arriver sans ce moyen de revenir à l'islam dans toute son authenticité, dans toute sa beauté. Comme le Nabi alayhi salam l'a dit, sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah fera abattre sur vous une humiliation. Ça, c'est un long hadith. Le Nabi alayhi salam a parlé quand les musulmans vont délaisser leur religion et ça ne sera plus une priorité dans leur vie. Wallahi ya ikhwa, vous ne tirez le profit de cette religion, comme c'était le cas des compagnons, comme ils disent, ces bédouins du désert, en 23 ans, ils ont changé la carte du monde. Ils ont fait tomber tous les empereurs de l'époque. Ces bédouins du désert qui n'étaient source d'intérêt d'aucune puissance de l'époque. Personne ne... Ça, il n'intéressait personne. Lakin, quand Allah leur a accordé cette faveur immense, la plus grande qui existe, la faveur de l'islam, et qu'ils l'ont bien compris, et qu'ils l'ont appliqué, chacun selon sa capacité, mais avec sincérité et véracité. Regardez cette histoire qui est unique. Vous ne trouverez pas d'exemple de l'histoire des musulmans dans toute l'histoire de l'humanité. En 23 ans, ils ont changé le monde. Et c'est devenu les maîtres du monde. Donc il n'y a pas de secret. Si on veut retrouver ce statut, il y a un seul moyen. Et c'est sur ça que nos ennemis nous combattent. Avec les ambiguïtés. En aidant à propager les mauvaises compréhensions de l'islam, à les financer. Et celui qui se penche sur ces sujets-là, il va voir des choses étonnantes. Car les puissances de notre époque ont très peur de l'islam, mais pas de l'islam qui fait des attentats. Ils aiment cet islam. Mais pas l'islam de ceux qui dansent dans les mosquées. Ils disent que c'est l'islam le plus proche du christianisme et du judaïsme, l'islam des soufis, comme ça a été propagé par les Nations Unies, Hayat al-Umam al-Muttahida. Ils disent que ça, c'est un islam parfaitement compatible, pas de problème. Ce n'est pas l'islam des terroristes qui tuent des innocents à travers des attentats criminels en prétendant obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un islam qui rend énormément service aux ennemis de l'islam. Et ce n'est pas l'islam qu'Allah a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, je me dis pourquoi les gens ne reviennent pas à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien évidemment, ces tendances égarées se propagent chez les ignorants. C'est en général des gens qui ne sont pas arabophones, qui ne lisent pas le Coran, qui ne comprennent pas le Coran et qui ne lisent pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le Nabi Islam a tué le kuffar de Mecca alors que les musulmans étaient persécutés? Il leur faisait énormément de mal. Est-ce qu'il faisait ça? Jamais de la vie. Et comment on peut prétendre que ça fait partie de l'islam? En tordant les coups des textes et en leur donnant des mauvaises interprétations. C'est pour ça que nous disons que l'islam, c'est pas seulement le Coran et le Sunna authentique. L'islam, c'est le Coran et sunna authentique avec la compréhension des compagnons. Qu'Allah les agrée. Naam, c'est ça l'islam authentique. Amma, tu prends un verset du Coran et tu l'interprètes comme tu veux, comme les frères musulmans disent, il faut une nouvelle lecture des textes. Le Coran a été révélé par celui qui a tout créé. Et il est valable pour toute époque et pour tout endroit jusqu'à la fin des temps. Cette religion n'a pas besoin d'être adaptée aux époques ou au pays ou là. Cette religion est valable pour toute époque, tout endroit sur terre. Là, qu'il y a le problème, quand nous, on a adopté beaucoup de choses qui s'opposent à la nature humaine saine, après, on a eu besoin d'adapter la religion pour garder nos mots. Il y a tout ce qui s'oppose à la nature humaine saine. Amma, si l'homme revient à sa nature humaine saine, il va trouver une parfaite compatibilité entre sa personne et tout ce qui l'entoure et la religion de l'islam. C'est pour ça que la religion de l'islam, c'est la seule religion qui correspond à la nature humaine saine, comme Allah t'a créé. Donc, comme je vous dis, cette rissa-là, malgré qu'elle soit concise, mais elle est extrêmement profitable et on aurait pu la détailler beaucoup plus comme ce qu'on a fait. Lakin, bi'idnillah, ça permet de comprendre ce que c'est l'islam authentique. Comme ça, si tu veux le suivre, alhamdoulillah, si Allah te le facilite. Et si tu ne veux pas le suivre, au minimum, tu n'attribues pas à l'islam ce qui n'en fait pas partie. Tu ne dis pas que faire des attentats, c'est l'islam. C'est le combat dans le sentier d'Allah. Ça, c'est le combat dans le sentier de Iblis et de ses alliés parmi les koufars. C'est pas un combat dans le sentier d'Allah. Et tu ne fais pas la danse en prétendant que c'est quelque chose, c'est une adoration qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que tout simplement que tu es en train de jouer et de suivre tes passions. Et tu ne dis pas, ça c'est l'islam. Parce que tout simplement, ces choses-là n'existaient pas chez les compagnons. Et c'est eux la référence. C'est pour ça les innovateurs qui étudient, qui ont de la science, il y a des innovateurs qui ont de la science. Ceux-là, ils ont énormément de mal avec la compréhension des compagnons. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Car si jamais ils l'acceptent, ça va annuler et ça va rendre caduque la majorité de leurs pratiques. Pour ça, ils disent non. Eux, c'est des hommes, et nous aussi, on est des hommes. Hum rijal wa nahnu rijal. Pourquoi on va se restreindre à leur compréhension des textes? Et ça, c'est dans la religion. Lakin dans le dunya, tu fais comme tu veux, du moment qu'il n'y a pas d'interdit. Car la règle de base dans le dunya, c'est que tout est autorisé, jusqu'à preuve du contraire. Dans la religion, tout est interdit, jusqu'à preuve du contraire. C'est l'inverse. Dans la religion, tu n'as pas le droit de faire une adoration jusqu'à ce que tu saches que c'est une adoration qui a été enseignée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que c'est une adoration qui est aimée et agréée par Allah. Et Allah ne m'a rien révélé à moi. Comment je vais savoir ce qu'il aime et ce qu'il agrée parmi les adorations? C'est uniquement par le biais et par le moyen de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que tu as su que c'est une adoration qui est légiférée, tu dois la faire sincèrement pour Allah. Pas pour le statut, pas pour l'argent, pas pour le respect des gens, pas pour toutes les mauvaises intentions qui rendent caduque ton œuvre. Donc c'est pour ça, pour que toute adoration soit acceptée auprès d'Allah, si tu cherches la validité, on se contente de l'apparence. Lakin, si tu cherches l'acceptation, il faut l'intérieur aussi. Il faut le cœur. Il faut que l'adoration soit faite pour Allah seulement, sans ostentation, sans aucun intérêt mondain. C'est ça les deux conditions d'acceptation. Sharta qabul al-sa'i ay yajtami'a fihi isabatan wa ikhlasan ma'a lillahi rabbil arsh la siwahu. موافق الشرع الذي ارتضاه. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous le faciliter à tous. Et ça, c'est la signification des deux attestations de foi avec lesquelles on entre en islam. Lakin, la plupart des muslimines sur terre aujourd'hui ont des problèmes dans la compréhension de ces deux attestations de foi. Je ne dis pas que ce n'est pas des muslimines. La règle de base, c'est que c'est des muslimines. Leur intérieur, c'est Allah qui le sait. Nous, on juge les gens selon l'apparence. Et on ne rentre pas dans les cœurs. On juge l'apparence. Celui qui montre le mal, on dit que c'est quelqu'un de mauvais. Celui qui montre le bien, on dit que c'est quelqu'un de bien. Après, celui qui montre le bien, ça peut être un hypocrite. Non. Il montre l'inverse de ce qu'il cache. Lakin, Allah ne nous a pas chargé de fouiller dans les cœurs des gens et de regarder ce qu'ils cachent. Ce n'est pas notre affaire. On juge l'apparence des gens, seulement. Donc, la plupart des musulmans aujourd'hui, comme j'ai dit mes frères, ont des problèmes par rapport à ces deux attestations de foi. Car ces deux attestations de foi, ça résume toute la religion de l'islam. Tout rentre dedans. Les ablutions, salat, zakat, siyam, toute la religion de l'islam. C'est pour ça, la première étape, ya ikhwa, pour toute personne qui cherche la réforme de sa personne, de sa famille, de sa communauté, elle doit commencer par la science. Et commencer par la science, c'est de commencer par avoir de l'estime pour les hommes de science. C'est pour ça que les ennemis de l'islam, ils commencent par te donner une mauvaise image des hommes de science. C'est des savants, des gouverneurs, ils sont comme ça. Yani, tu ne les as jamais rencontrés de ta vie, tu te permets d'avoir des jugements aussi graves sur lesquels tu seras interrogé auprès d'Allah. Fais attention. Le rang d'Allah subhanahu wa ta'ala est le rang le plus élevé. Tu dois contrôler tes mots quand tu parles d'Allah. Tu ne parles pas d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bon te semble. Tu te limites à ce qui est rapporté dans les textes. Allah entend tout, Allah entend tout. Allah voit tout, Allah voit tout. Et ainsi de suite. Ce qui est rapporté dans les textes. Quand tu parles du prophète A.S.A.S.A.M. et de tous ses frères parmi les prophètes et messagers, tu dois faire très très attention. Tu ne parles pas d'eux comme tu parles de ton copain. C'est l'élite parmi les hommes, ceux qu'Allah a choisis pour la mission la plus noble. C'est ceux qui ont le rang le plus élevé auprès d'Allah. Et après les prophètes et les messagers, vient les hommes de science, à leur tête les compagnons. Quand tu parles des savants, fais attention. Et ne tombe pas non plus dans l'autre extrême de ceux qui disent qu'il ne faut jamais critiquer un homme de science. Non, on critique un homme de science, mais avec des preuves et des arguments. Et avec une bonne intention. en voulant purifier la religion de l'islam. C'est nécessaire, sinon notre religion, elle deviendra comme la religion des chrétiens. Ils boivent et ils mangent, ils boivent le sang du Christ et ils mangent sa chair. Et leur religion, c'est chanter et danser. Cette science qu'on appelle la science de l'jarh et ta'dil, la critique et l'éloge, est une science nécessaire pour préserver cette religion. Donc on peut critiquer un homme de science parmi les savants de la sunna quand il se trompe, car personne n'est à l'abri de l'erreur, comme a dit l'imam Malik. Lakin, quand c'est un savant de la sunna, on ne va pas le dénigrer. On ne va pas yani, parler en mal de lui, mais dire que dans cet avis, il n'était pas en accord avec la sunna. Tout simplement. Donc, ne suivez pas cet avis qu'il a. Et c'est impossible de trouver un savant qui n'a pas des points comme ça. Là, qu'il en général, les imams de la sunna, ces points se comptent sur les doigts de la main. Si tu prends les grands imams comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, yani les points dans le fiqh, dans l'aqida, bien évidemment, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence entre dans la croyance. Ils sont tous sur la même croyance et d'ailleurs, on va lire un texte magnifique. Si tu ne connais que ce texte de Abu al-Mudhaffar al-Sam'ani, il te suffira pour savoir que cette voie, c'est la voie de la vérité. Lakin, dans les questions de la jurisprudence, le halal, le haram, ils divergent en fonction de leur compréhension, en fonction de leur science, de leur connaissance des textes, de plusieurs paramètres. Lakin, tous, ils visent la vérité. On le sait par rapport à nos imams. Lakin, l'avis qui n'est pas en accord avec la sunna, on le met de côté et on continue à respecter l'homme de science, salafi, qui suit la sunna. Lakin, les innovateurs, ils n'ont pas de dignité. Les innovateurs n'ont pas de dignité. Aucun respect pour un innovateur. Comme a dit l'imam al-Fudayl ibn Iyad, celui qui a respecté un innovateur, il a contribué à la démolition de la religion de l'islam. Man waqqara mubtadi'an faqad a'ana ala hadm al-islam. Donc c'est pas l'islam, les sentiments ont une place importante dans l'islam. Mais c'est pas les sentiments qui décident. Tu vas pas être sentimental, mais non, mais c'est ça, ça a été dit par des gens dans les premières générations. Mais comment les savants, ils critiquent les savants? Ce grand savant lui a dit, « Malheur à toi, je suis meilleur pour ceux que je critique que leurs parents et leur père et leur mère. Je suis meilleur pour eux que leur père et leur mère. Car moi, j'empêche les gens de les suivre dans leurs égarements et multiplier leurs péchés ainsi. » Car celui qui appelle à une guidée, il aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin des temps. Et celui qui appelle à un égarement, imaginez la gravité de ceux qui ont appelé à des grands égarements dans la croyance, comme Al-Jahm ibn Safwan, un homme extrêmement éloquent, un homme extrêmement intelligent. C'est peut-être le plus grand égaré dans l'islam. Celui qui a mis en place la plupart des égarements dans la croyance. Il les a pris de son cheikh, qui les a pris de son cheikh qui est un juif. Il a pris son égarement de son cheikh qui s'appelle Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham n'était pas éloquent. Il n'a pas réussi à faire propager son égarement. Là, il a eu cet élève très intelligent et très éloquent qui a permis de propager Had les égarements. Et ces égarements, ça remonte jusqu'à un de ses chouïrs qui était un juif, qui a pris ça, bien évidemment, de la philosophie grecque. Et les mêmes égarements que nous avons, nous, dans la croyance, dans les noms et les attributs, vous les trouvez aussi chez les juifs. Ils ont ces mêmes problèmes avec les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça a été pris de la philosophie grecque. Ce qu'on a fait, ce n'est pas ce qui va nous arranger pour finir le livre, en espérant que ce soit bénéfique et profitable à moi ainsi qu'à mes frères. Taïb, dans le sixième point, Cheikh a parlé de certaines caractéristiques et signes de la voie salafie. Yani, cette voie, c'est une voie qu'on suit avec la science. Salafia et Aïkhoa, ce n'est pas une barbe et un kamis mi-jambe. Salafia, c'est une méthodologie par laquelle tu es convaincu. Après, on est négligent dans la pratique, ça, on est quand même sur la voie de Salaf. Lakin Salafia, c'est une méthodologie, c'est-à-dire c'est une science. L'islam, c'est une science. Il n'y a pas d'islam avec les coutumes et les traditions et le suivi de ce que les gens font. L'islam, c'est une religion de science. Le premier verset qui a été révélé, Iqra, lis. L'islam, c'est une religion de science. Et c'est ça qui a fait des premières générations, des générations très fortes dans leur attachement à la religion. Car c'était des générations basées sur la science. Ils étaient comme nous. Ils étaient comme nous, ils avaient des familles. Ils avaient des enfants. Ils devaient travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils n'avaient pas des enfants qui se contentaient de l'air pour vivre. Ils devaient travailler. Omar ibn al-Khattab, ce grand savant parmi les sahabas, il travaillait. Lakin, c'est des gens... Ici, on doit résumer ces générations. En un mot, je vous dirai, c'est des gens pour lesquels la religion, c'était la priorité des priorités. Il n'y a rien qui passe avant leur religion. Ils regardent la satisfaction et l'agrément d'Allah et le reste, ils suivent. C'est pas un non, est-ce que je peux, est-ce que ça va m'handicaper dans ça, je vais perdre mon poste, je vais avoir moins d'argent. Non, sahaba, c'est tout simplement des hommes qui ont compris que la priorité des priorités, c'est la religion. Tout le reste, c'est secondaire. Et subhanallah, quand tu comprends ça, et quand ça rentre dans ta tête, dans ton cœur, dans ta pratique, Allah, il donne tout ce que les gens veulent. Il donne l'air, il donne la nourriture, tu manges, tu bois, tu vis bien, alhamdoulilah, et en plus, tu as un bien-être dans le cœur que tu ne peux même pas décrire aux autres. T'as le vrai bonheur dans le bas-monde, car celui qui n'a pas goûté au vrai bonheur dans ce bas-monde, il ne le goûtera pas dans l'au-delà. Il y a un paradis ici-bas, avant le paradis de l'au-delà. Et celui qui n'est pas rentré dans le paradis d'ici-bas, il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Le paradis d'ici-bas, c'est la connaissance d'Allah, comme a dit un salaf. Taïb, après avoir parlé de ces caractéristiques, chez Al-Sunnah wal-Jama'ah, ils n'avancent pas des propos comme ça sans preuve. Cheikh a mentionné les preuves sur ces caractéristiques. Et on les a toutes lues. Et après, il a rajouté quelques caractéristiques. Il a rajouté une caractéristique qu'il a déjà mentionnée, laquelle il l'a rappelée pour mentionner quelques textes la concernant, car elle est très importante. Il a dit « Wa min ma'alimi wa simati al-manhaj al-salafiyyi allati marra dhikruha » parmi les caractéristiques de la voie salafie et qui a été citée précédemment, c'est « Al-thabatu ala al-haq » le raffermissement sur la vérité. « Al-thabatu » على الحق قال الله جل وعلا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui ont émigré et qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans le sentier d'Allah, dans le chemin d'Allah, qui ont combattu, qui ont été tués, Je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif: Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Donc, le raffermissement sur la vérité, c'est une des plus grandes caractéristiques de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Qu'est-ce que ça signifie? Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils prennent leur position avec science. Donc, c'est des positions prises avec science et clairvoyance. C'est pas en suivant la masse ou en suivant le grand nombre de gens ou en suivant les patients, ou avec un suivi aveugle. Non, Ahl-Sunnah, leur croyance, leur religion, elle est basée sur une science. C'est pour ça l'imam Malik, quand il a été interpellé par un homme, il lui a dit: viens, on va débattre. Il lui a dit alors, il lui a dit: si c'est moi qui domine, tu me suis. Et non, l'imam Malik lui a dit d'abord, afwan. Il lui a dit: si c'est moi qui l'emporte. Il lui a dit: je te suis. Il lui a dit: et si c'est toi qui l'emporte? Il lui a dit: tu me suis. Il lui a dit: va chercher quelqu'un qui a des doutes dans sa religion comme toi. Parce que moi, je suis sur des convictions solides dans ma religion. Moi, ma religion, ce n'est pas un jeu. Je vais débattre avec un tel et après, je prends des nouvelles positions. Et ça, vous l'entendez souvent à notre époque. Oui, j'ai eu une assise avec quelqu'un, alhamdoulilah, j'ai changé de position. Les gens, ils changent de position souvent. Pourquoi? Parce que, yani, c'est pas un mal de changer de position, bien évidemment, d'une manière absolue. C'est un bien de changer de position quand t'as été dans l'ignorance. Là, quelqu'un qui a pris ses positions avec science et avec des preuves, normalement, il change plus de position jusqu'à la fin des temps. Yani, est-ce qu'on va changer de position par rapport au nom et attribut d'Allah? Est-ce qu'on va changer de position par rapport au devoir de rendre un culte exclusif à Allah? Est-ce qu'on va changer de position sur l'obligation de suivre le prophète dans toute notre religion et qu'il est notre unique exemple et modèle? Et on suit les imams tant qu'ils suivent le prophète. Est-ce qu'on va changer ces choses-là? Bien évidemment, non, ça ne change pas. C'est ça qui est voulu par leur affermissement. Et c'est ça qui a été voulu par l'imam Malik. L'imam Malik, rahimahullah, c'est pas quelqu'un qui a pris ses positions avec le hawa, ou là avec l'ignorance, ou là un phénomène de société, ou là une tendance dominante. Et souvent, à notre époque, c'est que ça. Malheureusement, même chez des gens qui s'apparentent à la demande de science. Parce que c'est une tendance dominante. Il suit ça parce que s'il ne suit pas ça, ils vont être seuls à être dans l'autre position, et ça va lui poser des problèmes. Il va avoir des pertes, yani des problèmes dans ses relations et dans ses amitiés. طيب, Hudhayfa radiallahu anhu, il dit, قال Hudhayfa radiallahu anhu, écoutez bien cette parole. إِنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أَن تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ وَأَن تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ. Allahu Akbar. Subhanallah, ya ikhwa. On va finir avec une parole, si Allah nous le facilite, avec une parole de l'imam Ibn Rajab, dans son livre magnifique que je vous conseille tous de lire. Fadlu ilmi salafi ala al-khalaf. Le mérite de la science des prédécesseurs sur ceux qui sont venus après. Le mérite de la science des premières générations sur les générations d'après. Et vous allez voir toutes les différences qu'il y a entre les deux discours, le discours des compagnons, le discours de Tabi'in, leurs enseignements, le plus souvent, elles sont concises. Lakin, ça donne les grandes lignes. Ça va droit au but. Il y a une baraka dans leurs paroles. Parce qu'en général, c'est des paroles qui ont été prononcées en voulant seulement la satisfaction d'Allah. Il n'a pas d'intérêt avec toi. Il ne te connaît même pas. Donc, et ça, c'est valable pour cette parole de Hudayfa ibn al-Yaman. En plus, Hudayfa ibn al-Yaman, vous savez, les sahabas, c'est des degrés. Ils sont tous dignes de confiance. Udulun thiqat. Personne n'a le droit de toucher un cheveu d'un sahabi, de dire un mot de mal d'un sahabi. Ce ne sont pas des gens infaillibles. Lakin, c'est ça l'enseignement du prophète. Idha dhukira ashabi fa amsiku. Dès que tu entends quelqu'un parler en mal d'un compagnon, sache que tu as affaire à un égaré. Tout de suite. Et je jure par Allah que c'est comme ça. Ou un ignorant, il doit se repentir à Allah. Et en général, il commence par Muawiyah. Muawiyah, kada, oui, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Après, il passe à Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Muawiyah, il a été choisi par le prophète, alayhi sallam, pour écrire le Coran. Pour ça, les salafs, ils ont compris ça. Si vous prenez Abdullah ibn al-Mubarak, tabi'i, il a dit, Muawiyah, c'est un voile. Celui qui le traverse, il arrive aux autres compagnons. Donc, quand on parle des compagnons, on dit que le bien. إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِ فَأَمْسِكُوا. Tu n'as pas le droit de dire du mal d'eux. Ce n'est pas parce que tu crois qu'ils sont infaillibles. Non. Lakin, c'est comme ça la position de l'islam par rapport à ces hommes qui sont la cause que tu sois aujourd'hui un musulman. Wallah, tu ne serais pas musulman sans eux. C'est Allah qui les a choisis. Un par un. Il a regardé dans leur cœur, il les a choisis. C'est les meilleurs hommes qui ont marché sur terre après les prophètes et les messagers. Ils ne sont pas infaillibles. Lakin, c'est les meilleurs hommes. Tayyib. Donc, Hudayfa radiallahu anhu dit Inna dalalata haqqa dalalati. Il dit l'égarement en toute vérité. C'est quoi l'égarement? En toute vérité. An ta'rifa ma kunta tunkir. Yani il dit l'égarement en toute vérité. Consiste à approuver ce que tu désapprouvais. Quelque chose que tu considérais comme un mal auparavant. Aujourd'hui, pour toi, ça devient un bien. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Est-ce que c'est des preuves et des arguments? Ou tout simplement la passion? Et à ce que tu réprouves ce que tu approuvais auparavant. Yani les balances s'inversent chez toi. Ça, c'est un indice que tu es touché par un grand égarement. Et que peut-être le début d'un égarement encore beaucoup plus grand. Et ça peut arriver jusqu'à l'apostasie. Et jusqu'à l'abandon de l'islam. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Si tes positions changent sans preuve, sans argument, c'est un signe d'alerte. Ensuite, il a dit « Wa iyyaka wa at-talawun » Garde-toi de toute versalité, du changement dans la religion sans preuve, sans argument. Telawun, yani, aujourd'hui tu es de telle couleur, demain une autre couleur, aujourd'hui avec ce visage, demain un autre visage. Ça, c'est pas l'islam. Sahaba, est-ce que Cheikh il va le citer? La parole de Hiraql. Je pense qu'il va la citer. La parole de Hiraql. Hiraql, l'empereur romain, lui, il savait ce que c'est la vraie religion. Il y en a, et il y en a à l'époque, hatta les gouverneurs des Koufars, c'était des hommes de science. Prenez l'exemple du Négus, de Hiraql. Il avait la science. Il a convoqué un qui était proche du prophète, il a demandé à ce qu'on lui ramène un proche du prophète. Le hadith, il est dans l'authentique de l'imam le Bukhari. Ils lui ont ramené Abu Sufyan, un grand ennemi du prophète A.S.A.M. à l'époque, avant qu'il n'entre en islam. Et il l'a interrogé, lui a posé des questions. C'est des questions méthodologiques avec lesquelles il est arrivé tout seul que cet homme, c'est un vrai prophète. Parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit, quand l'un de ses suiveurs entre dans sa religion, est-ce que ça leur arrive de l'abandonner? Il lui a dit, jamais de la vie, on n'a jamais vu ça. Il lui a dit, c'est comme ça la foi, quand elle rentre dans le cœur. La foi basée sur la science et les preuves. Il y a ni quelqu'un qui a compris l'islam, wallahi ya ikhwa. Tu lui donnes dunya en entier. Pour abandonner sa religion, il ne le fera pas. Sauf comme ça a été le cas avec un prêcheur chrétien égyptien que j'ai entendu. Il parlait de ces phénomènes qui étaient la cause de son entrée en islam par la suite. Il a fait une da'wah au Soudan et il s'attendait à un rejet de la part des gens. Il les appelait à entrer dans la religion chrétienne. Et il a été étonné de la facilité avec laquelle ils ont accepté la da'wah. Il leur a dit, voilà, après l'acceptation, on va vous faire une petite formation, je ne me rappelle pas dans quelle ville européenne, à Rome ou là, quelque chose comme ça. Et ils les ont embarqués dans un bateau. Et bien évidemment, ils leur ont donné de l'argent. Ils leur ont donné de l'argent. Et ça s'est fait comme ça. Et sur le voyage, ils visitaient les loges de ces nouveaux chrétiens. Il a dit, j'ai trouvé le premier, il était en train de faire Qiyam al-Layl. Le deuxième était en train de lire le Coran. Le troisième, il faisait Dua. Et après, il les a réunis. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez accepté ça? Ils lui ont dit, en réalité, c'est que pour l'argent. Hein. On ne peut pas délaisser notre religion. Mais on a besoin de flou. Dans notre pays, on est très pauvre. Et Hadi, c'était une cause de son entrée en islam et c'est devenu un prêcheur connu en Égypte. Hachi, celui qui a connu l'islam avec des preuves et des arguments, c'est impossible qu'il l'abandonne. C'est impossible qu'il l'abandonne pour autre croyance. Il peut être tenté par dunya. Il peut être tenté par dunya. Non. Quelqu'un qui a compris l'islam, il adhère à la religion chrétienne en croyant que c'est vrai. C'est quoi de la religion chrétienne? Elle tient sur rien. C'est pas possible qu'un musulman qui a étudié l'islam, il devienne chrétien. Il passe à des notions que eux ils comprennent pas. La Trinité, trois en un. Là, on connaît ça que dans les shampoings ou la démêleur. Mais c'est quoi trois divinités en un seul? Donc c'est trois divinités ou là c'est un seul? Allah alam. Eux ils savent pas. Il faut pas poser cette question. Pourquoi il faut être en garde contre le changement dans la religion? Écoutez l'argument qui est avancé par Hudayf ibn al-Yaman. Il a dit, car la religion d'Allah est unique. Il n'y a qu'une seule religion. Il n'y a qu'une seule bonne compréhension. Il n'y en a pas plusieurs. Ensuite, Cheikh a dit, وَلَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ يَا رَعَاكُمُ اللَّهِ مَوْقِفَ الْإِمَامِ أَحْمَدِ. Donc ensuite, Cheikh a rappelé la position de l'imam Ahmed, rahimahullah, quand il a été éprouvé, fouetté, torturé, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais malgré tout ça, il est resté ferme sur sa position de vérité. Et que le Coran est un attribut d'Allah. Allah a parlé réellement avec le Coran comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Il n'a pas adopté la position égarée de Mu'tazila qui dit que le Coran est une créature d'Allah. Et il a rappelé aussi la fermeté de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a été torturé. Il a été emprisonné plusieurs fois dans sa vie. Et même, il est mort emprisonné, Ibn Taymiyyah. Cet homme est mort emprisonné. Ses ennemis ont tout essayé avec lui pour lui faire du mal. Et lui, quand il a eu l'opportunité, une opportunité en or, bien évidemment, si on parle de Ntaymiyyah, il y a tellement d'enseignements à apprendre, que ce soit dans le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des gens de la sunna et vis-à-vis des gens de l'innovation et de ces choses-là. C'est un exemple et un modèle. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. C'est entre autres par sa cause qu'aujourd'hui, on connaît la vérité. Avec notre petit niveau de science aujourd'hui, on peut être sur la même croyance que les compagnons, radiyallahu anhu, par la cause de cet homme, Ibn Taymiyyah, qui a mené des guerres et des batailles. Ils ont tout essayé avec lui pour lui faire du mal. Et Allah le préservait à chaque fois. Et lui, quand il a eu l'opportunité en or de tous les tuer, il n'a pas accepté. Car le gouverneur, en réalité, le gouverneur, pour lui, ce qui comptait, ce n'est pas la bonne position, la vraie position. Yani, lakin, hado, c'était des ennemis pour ce gouverneur. Il voulait se débarrasser d'eux. Il lui a dit, alors fais-moi une fatwa que ce sont des égarés. Comme ça, on termine avec eux. Il lui a dit non. C'est des hommes de science. Yani, il a compris son intention. Et qu'elle est mauvaise. Tayyib. Et il a rappelé l'histoire d'un autre savant parmi les salafs qui s'appelle Muhammad ibn Ahmad rahimahullah ta'ala. L'imam Muhammad ibn Ahmad rahimahullah ta'ala. Ce grand imam parmi les salafs, il a été emprisonné par les Banu Ubayd. Les Banu Ubayd, c'est ceux qui se font appeler Al-Fatimiyoun. C'est eux qui ont mis en place pour la première fois l'innovation de l'anniversaire du prophète, fêter l'anniversaire du prophète. Et c'est eux qui ont autorisé et qui ont même ordonné aux prêcheurs d'insulter les compagnons chaque khutbat al-Jum'a. C'est des grands rawafid, c'est des grands mécréants. Had al-Fatimiyoun, d'une manière générale. Là, ils avaient énormément de croyances qui s'opposent à la croyance de l'islam. Ils avaient un autre livre que le Coran. Dans d'autres égarements. Et ils persécutaient, ils torturaient les savants de la sunna. Et d'une manière incroyable, vous allez voir un exemple. Ça, c'est un seul exemple de ce qu'ils faisaient avec les savants de la sunna. Donc, il y avait ce grand imam qui est Muhammad ibn Ahmad, rahimahullah ta'ala. Ils l'ont appelé, bien évidemment. Lui, il mettait en garde contre eux dans ses cours, publiquement. C'est eux qui dominent. C'est eux qui ont le pouvoir. Et il mettait en garde contre eux et contre leurs égarements. Ils lui ont dit, ils l'ont invité dans un premier temps à faire leurs éloges. Il a dit non. Ils lui ont dit, alors, au minimum, t'arrêtes de dire du mal de nous. Il a dit, non, je vais continuer à propager la vérité. Et c'est là où ils l'ont emprisonné. Et ils ont décidé de... Ils ont tout essayé pour qu'il revienne et qu'il soit de leur côté. Mais quand ils ont vu que c'était pas possible, alors là, ils ont décidé de le torturer d'une manière que je vais vous décrire. L'imam Dharqutni, quand il citait son histoire, il pleurait. Quand il citait son histoire, il pleurait. Donc, ce grand savant, ils l'ont emprisonné. Après, un jour, ils ont décidé de le tuer. Ils l'ont sorti. Ils ont ramené un homme pour l'écorcher à vif. Retirer sa peau. Toute la peau du corps. Ils ont commencé par le visage, par la tête et le visage. Et celui qu'ils ont chargé de cette mission, c'était un homme juif. L'Anna, si c'est un musulman, même s'il a la même croyance que le Fatimiyyin, yani, quel cœur il faut avoir pour faire ça avec un homme sur lequel il y a les signes de la piété et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme âgé, un grand savant parmi les plus grands savants de cette communauté. Quel cœur il faut avoir pour le faire. Donc ils ont ramené cet homme. Et il a commencé à le faire. Il a commencé à le faire dans une place publique. Et lui, il souffrait. Il avait tellement mal, il était tellement souffrant que cet homme juif qui était chargé de cette mission a eu pitié de lui. Il le faisait avec un couteau, il l'a planté dans son cœur et il l'a tué par miséricorde envers lui. Et quand il a été tué, ils ont continué à l'écorcher. Ils ont retiré toute la peau de son corps. Et ils ont rempli son corps avec de la paille. Et ils l'ont crucifié devant les gens. Yanni, pour que ça serve de leçon aux autres savants de la Sunna. Pour répandre la terreur et la peur dans les cœurs des savants de la Sunna. Cheikh al-Bukhari a dit, il a été crucifié et torturé de cette manière atroce à cause de son attachement à la Sunna. Qui peut résister à tout ça parmi nous? Allah al-Musta'an. Et c'est un bien de reconnaître sa faiblesse. Ensuite, la citation de l'imam Abu al-Mudaffar al-Sam'ani, il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, non, là, avant d'arriver à cette parole, non, la parole de l'imam Abu al-Mudaffar al-Sam'ani, rahimahullah, il a dit, ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق. Et parmi les choses qui indiquent que les gens du hadith, les gens qui suivent le hadith, pour les distinguer de ceux qui rejettent les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Nana, tout le monde dit suivre le Coran. Personne ne dit non, on suit pas le Coran. Lakin, le problème que certains innovateurs ont, c'est avec le hadith, comme a dit Omar. Si les gens de l'innovation débattent avec vous, avec le Coran, ramenez-les à la Sunna, car la Sunna explique et détaille le Coran. Et eux, ils préfèrent rester dans le Coran afin de l'interpréter comme ils veulent. Là, le hadith, c'est explicite. Car la mission du prophète, c'est d'expliquer le Coran et de clarifier le Coran. « Inna nazzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun » afin de clarifier aux gens ce qui leur a été révélé. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle al-hadith. Ça ne veut pas dire que c'est que des savants du hadith. C'est les savants du hadith et tous ceux qui suivent la même voie que eux. Je pense qu'on l'a déjà vu. Taïb. Il a dit... أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم. Si tu lis leurs ouvrages, les livres qu'ils ont écrits, du premier d'entre eux jusqu'au dernier, tous les savants du hadith, les anciens et les contemporains, il a dit, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur époque, mais malgré la grande distance entre leur lieu de résidence. Chacun habite dans un pays très, très éloigné de l'autre. Si tu regardes leurs livres et leurs ouvrages et leurs traces, tu les trouveras sur une même et unique croyance et sur une même et unique méthodologie. Ils sont sur une même voie de laquelle ils ne s'écartent jamais et de laquelle ils ne dévient jamais. Leur parole est unique. Et leurs actes sont uniques également. Tu ne trouveras pas de divergence entre eux, ni de division, même dans des, yani dans aucun point. Et bien évidemment, les points qui sont concernés, c'est les points qui sont les fondements de la religion, les fondements de la croyance, et ainsi de suite. Tu ne trouves pas de divergence entre eux, dans ces points-là. Il dit, même si tu regroupes tout ce qui a été rapporté d'eux, par exemple, tu prends une question. Quelle est leur croyance par rapport à la vue d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Prenons un exemple concret pour que ce soit clair. Tu vas trouver l'Asha'ira, ils te disent Allah sera vu dans l'au-delà. Là, prenons d'abord le Mu'tazila. Mu'tazila qui sont avec le Jahmiya. Le Jahmiya, ils disent Allah ne peut pas être vu. C'est impossible. Et ils sont clairs et explicites. Ils renient tous les textes dans lesquels il y a la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'Asha'ira, Al-Sunna, ils disent Allah ne peut pas être vu dans le bas-monde, mais il sera vu dans l'au-delà, dans le paradis, par les croyants, d'une manière réelle, comme il convient à sa majesté et sa grandeur. L'Asha'ira, c'est entre les deux. Ils disent, l'Asha'ira toujours voulait trouver, comme ça, ils essaient de... la finalité, c'est d'avoir la même position que le Mu'tazila. Lakin, ils ne renient pas le texte directement. Ils ne disent pas « Allah ne sera pas vu ». Ils disent « Allah sera vu ». Lakin, c'est une vision avec le cœur. C'est une vision scientifique. Et non pas avec l'œil. Donc, finalement, c'est la même chose que le Mu'tazila. Et Al-Sunna, il croit en tout ce qui a été rapporté dans les textes. Et ça, c'est la compréhension des compagnons. Pourquoi on a besoin de la compréhension des compagnons? Car on leur dit, ramenez-nous un seul texte authentique d'un seul compagnon qui a dit que ce n'est pas une vision réelle. Wallah, ils ne trouveront rien dans aucun attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement dans celui-là. Dans aucun attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que Sahaba, c'est des Arabes, ils ont compris. Allah est vu. Le Nabi alayhi salam a dit à un bédouin, Allah sourit. Il n'a pas dit, non, mais comment, le comment, on ne le connaît pas. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il y a un comment, réel. On sait qu'il est comme il convient à Allah, et à sa grandeur et sa majesté. Et on sait aussi avec certitude qu'il n'a rien à voir avec le comment de la créature. Car le comment de la créature correspond à sa faiblesse et à son impuissance. Et c'est une pauvre créature. Et le comment du créateur convient à sa grandeur et sa majesté. Il a dit, si tu regroupes tout ce qui a été rapporté d'eux, quelle que soit leur génération, quelle que soit leur époque, quel que soit leur pays, quelle que soit leur origine, tu diras que ces propos sortent de la même bouche et du même cœur, comme si c'est un seul homme qui s'est prononcé. Ça veut dire qu'il y a zéro divergence entre eux. Ensuite, il a dit, وَهَلْ عَلَى الْحَقِّ دَلِيلٌ أَبْيَنَ مِنْ هَذَا. Il a dit, est-ce qu'il y a une preuve que c'est ça la vérité, qui est plus grande et plus claire que celle-là? Ça, c'est une preuve rationnelle. Ensuite, il a cité le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Car s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul livre dans lequel il y a pas d'erreur, c'est le Coran al-Karim. Et c'est pour ça que vous trouvez que l'authentique de l'imam al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'œuvre d'un homme. Et c'est le livre le plus authentique après le livre d'Allah. Pour les gens de notre niveau, tout ce qu'il y a dans l'authentique de l'imam al-Bukhari est authentique. Lakin, si tu arrives à un niveau comme l'imam al-Dharqutni et les grands imams, ils ont des discussions avec l'imam al-Bukhari dans quelques ahadiths, 4 ou la 5 ahadiths. Et leur discussion avec l'imam al-Bukhari, c'est pas dans le texte, la parole du prophète, c'est dans la chaîne de transmission. Lakin, c'est de ce niveau-là. Amma, pour notre niveau, tout est authentique dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et dans l'authentique de l'imam muslim. Toutes sont des propos du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les autres livres de la sunna, comme vous savez, Abu Dawud, wa al-Tirmidhi, wa al-Nasa'i, wa Ibn Majah, ça, on a besoin des jugements des savants sur les hadiths, car ils comportent des hadiths qui sont faibles et des hadiths qui sont authentiques. Ceux qui se sont fixés une condition de ne regrouper que ce qui est authentique, pour eux, c'est seulement l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Ça ne veut pas dire que l'imam Abu Daoud n'était pas capable de le faire. Il était capable de le faire. Mais lui, il a fait un autre choix pour un autre intérêt. Vous savez, quand on a 3 ahadiths, ou là 2 ahadiths qui ont une petite faiblesse dans la chaîne de transmission par rapport à un des rapporteurs, si on le rapporte de différentes narrations, ça peut arriver à ce qu'on appelle le hadith al-hasan. Donc le hadith faible, quand on dit faible, ça ne veut pas dire que le Nabi ne l'a pas dit à 100%. Lakin, nous, on ne l'accepte pas. On a des règles. Lakin, ça peut être une parole du prophète. Et toutes les choses dont on a besoin dans notre religion pour adorer Allah comme Allah l'aime nous ont été rapportées authentiquement. Donc, pas de panique. Ensuite, il a rapporté notre parole. Donc, on va finir juste ce point et après, on laissera la conclusion à une autre rencontre, Inch'Allah. Donc, une autre parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah, dans laquelle il dit « Innaka tajidu ahl al-kalami aktharun nasi tajidu ahl al-kalami aktharun nasi intiqalan min qawli ila qawli. » Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que tu trouves que les gens de l'kalam, الكلام يعني هذا الكلام الفلسفي المأخوذ من الفلسفة اليونانية يعني certains appellent la science de la croyance علم الكلام. Pourquoi ils l'appellent علم الكلام? Il y en a qui ont dit parce que c'est la première chose dans laquelle il y a eu débat dans cette communauté parmi les points de la croyance, c'est le كلام d'Allah, la parole d'Allah. Est-ce qu'elle est réelle? Les Ash'aris disent « Allah a parlé avec le Coran ». On va trouver la même astuce que tout à l'heure. Les Mu'tazilas disent « Allah ne parle pas ». Point à la ligne. Pas de discussion possible ni imaginable. Avec un Mu'tazili et un Jahmi, c'est clair. Il est comme le philosophe grec. Allah ne parle pas. Parce que si tu attribues la parole à Allah, c'est que tu l'as comparé à une créature. Car cette anthropomorphiste, il n'arrive pas à s'imaginer une parole que la parole des hommes. Donc pour lui, il n'y a pas de parole que la parole des hommes. Donc si on dit Allah, il parle comme les hommes, c'est pas possible. Donc Allah, il ne parle pas. Al-Sunna disent Allah parle réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Il parle avec des lettres et des mots. Et le Coran, c'est sa parole avec laquelle il a parlé. Allah, il parle quand il veut, avec ce qu'il veut. Al-Ash'ari, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toujours la même astuce, la même technique. Ils vont dire, eux, ils croient comme le Mu'tazila. C'est pas possible qu'Allah parle. Al-Ash'ari a été impacté par le Mu'tazila. Al-Ash'ari, c'est une réaction à la voix de le Mu'tazila. Vous savez que Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est revenu à la voix de Al-Sunnah al-Jama'a, et qui a dit revenir à la voie de à la méthodologie de l'imam Ahmad dans les domaines de la croyance, mais ses suiveurs ne sont pas revenus. Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est resté 40 ans au Mu'tazili. Son beau-père était un imam de Mu'tazili. Il est resté avec lui 40 ans, il est Mu'tazili. Après, il a rencontré un autre égaré qui s'appelle Ibn Kulab. Et c'est devenu son cheikh et il s'est repenti de Mu'tazili. Et après, il a développé sa propre méthodologie dans la croyance, qui se rapproche énormément de celle de ce deuxième cheikh qui s'appelle Saïd ibn Kulab. Et finalement, sa troisième phase, c'est qu'il est revenu, il a dit que je suis la voix de l'imam Ahmed. Qui la voix de Al-Sunna al-Jama'a, qui est la même que la voix de l'imam Malik, la même que la voix de l'imam Shafi'i, et les grands imams, Layth ibn Sa'd, l'imam Al-Awza'i, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Al-Hammadayn, Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salam, tous les grands imams, ils étaient sur cette même croyance. Et les égarements sont apparus après les trois premières générations dans cette croyance. Donc c'est ça ce qu'on appelle ilm al-kalam. Cheikh l'Islam, il dit ilm al-kalam, had al-kalam, les gens qui suivent cette voie de l'kalam sont ceux qui changent le plus d'avis. Tu les trouves aujourd'hui avoir un avis par rapport à une question de croyance. Et ils le citent avec certitude que c'est la vérité. Et tu les trouves le lendemain citer un autre avis avec certitude que c'est la vérité, alors que c'est l'opposé de l'avis de la veille. Et même, il va rendre mécréants ceux qui ont son avis d'avant. Et ça, il a dit, c'est une preuve qu'ils ne sont pas sur la certitude. Car l'iman, la foi, comme l'a décrit Caïsar, Caïsar, j'ai oublié comme ils disent, je disais avant César, mais on m'a dit, c'est pas César. Al-Mohim Qaysar, c'est l'empereur romain. Hada, lui, il a compris ce que c'est la foi. Quand il a interrogé Abu Sufyan, comme je vous ai dit tout à l'heure, il lui a dit, quand il lui a défini la foi, les compagnons, que la plupart des suiveurs, il lui a dit, c'est qui ces suiveurs? C'est les gens aisés ou les gens pauvres et démunis? Il lui a dit, c'est les pauvres et les démunis. Il lui a dit, c'est comme ça les premiers suiveurs des prophètes et messagers. Il lui a dit, est-ce que quand l'un d'entre eux entre dans sa religion, il peut l'abandonner? Il lui a dit non. Il lui a dit, il en est ainsi de la foi. Lorsque sa douceur se mêle au cœur, lorsque sa douceur pénètre les cœurs, s'imprègne dans le cœur, nul ne peut plus la rejeter par aversion. Pas par aversion. Là, qui n'y peut la rejeter par passion, par amour de dunya. Il veut l'argent. وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ فَمَا يُعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَلَا صَالِحِ عَامَّتِهِمْ رَجَعَ قَطٌ عَنْ قَوْلِهِ وَاعْتِقَادِهِ. Il a dit, Cheikh l'Islam, Cheikh l'Islam Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa de Ibn Qasim, il dit, par contre, les adeptes de la sunna et les savants du hadith, on ne connaît pas un seul, regardez, un seul, pas 10 ou 20, on ne connaît pas un seul parmi leurs savants, parmi leurs érudits, parmi les pieux et les vertueux parmi eux, qui sont revenus sur leurs avis ou leurs croyances. Car ce n'est pas un avis qui est tiré de sa raison ou de la philosophie grecque. C'est la parole d'Allah et la parole du prophète, il va revenir sur quoi? Il va revenir sur sa foi alors. Amma l'autre, non. Il s'appuie sur la raison. C'est pour ça, quoi? Sachez avec certitude. Et c'est ça la vérité. Quand bien même vous pouvez entendre des Ash'ari qui le renient aujourd'hui. L'Ash'ari, c'est quoi la plus grande preuve pour lui? C'est quoi l'argument irréfutable? Je vous donne trois choix. La raison, le Coran, la Sunna authentique. 1, 2, 3. La raison. Oh là là, plus forte que le Coran. Naam. Ça peut vous choquer. Et c'est pour ça, eux, aujourd'hui, c'est comme les athées. Si tu entends Richard Dawkins, aujourd'hui, sur les plateaux de télé, il ne dit pas qu'il n'y a pas d'inceste. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de moralité. Ça, c'est un truc inventé. Ça, c'est juste parce que tu as été élevé comme ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de viol. il va pas yani, prendre cette position à la télé, devant le grand public. Car avec leur nature, le reste de leur nature humaine saine, ils vont rejeter ça. Lakin, tu reviens à ses livres, c'est ce qu'il dit. Amma sur la plateau de télé, un plateau de télé dit non, mais on est habitué à ça, donc il faut le garder. Il ne faut pas faire l'inceste, et adé, c'est pas bien. Alors un athée, s'il est en accord avec son athéisme, avec sa religion, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. La notion du bien et du mal n'existe pas. Quel bien et quel mal tu parles ? On est issu de la matière inerte et d'une mutation aléatoire. Tu es sorti comme ça, avec cette tête et ses pieds. Allah al-Musta'an. Tu aurais pu sortir d'une manière différente. On est comme des animaux. Est-ce qu'il y a le bien et le mal chez eux ? On est des animaux. C'est pour ça que cette croyance, elle est très dangereuse. Là, qu'il les athées instruits et qui connaissent bien l'athéisme, pas l'athéisme de la masse, des ignorants, qui ne savent même pas ce que c'est. Lui, ce qui compte pour lui, c'est juste de rejeter la foi et rejeter sa soumission à son créateur. Ça l'arrange, point à la ligne. Il peut s'adonner à ses envies et ses passions. Il peut fréquenter qui il veut. Des hommes, des femmes, des animaux, tout est... pas de problème. Ouais, il veut juste ça. Ah, mais il ne connaît pas l'athéisme. L'athéisme, c'est une religion. Et comme toutes les religions, ça nécessite une science. C'est des principes, ils ont des piliers, ils ont des croyances, ils ont des obligations. Adawa l'athéisme. Donc, tu ne trouveras pas un homme de science parmi ceux qu'il a décrits qui est revenu sur sa croyance. Au contraire, ils sont ceux qui patientent le plus sur leur position et qui restent fermes, comme les exemples qui ont été mentionnés. Et ça, c'est quelques exemples. Il n'y a presque pas un imam qui n'a pas été éprouvé par rapport à son attachement à la vérité. Et toujours, Allah leur permet de rester ferme. Et ensuite, il a dit وَهَذِي حَالُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ. Il a dit, ça c'est tout simplement l'état des prophètes et de leurs suiveurs parmi les anciens, comme Ahlul Ukhdoud, ces croyants qui étaient sur la religion de Isa alayhi salam et qui étaient torturés par le roi de leur pays pour qu'ils abandonnent leur religion. Et ils ont patienté jusqu'à ce qu'il a creusé des tranchées dans lesquelles il a mis du feu, il les a jetés vivants dans le feu. Et personne d'entre eux, personne de ses croyants n'est revenu sur sa foi. Il voit le feu devant lui. La mère, elle voit son bébé jeté dans le feu. Elle ne revient pas sur sa foi. Hada, voilà la vérité. Amma, aujourd'hui, tu es avec Hada, aujourd'hui avec Sa'afiqa, demain avec le Moussa'afiqa. Tu finis pas. Faut que tu connaisses la vérité. Faut que tu connaisses les preuves de cette méthodologie, les preuves de cette croyance, comme ça tu restes ferme jusqu'à rencontrer Allah sur la vérité, comme bien même tu restes tout seul. C'est pour ça le groupe, c'est pas le grand nombre, comme a dit Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il a sa place, il a un statut particulier dans la compréhension de la religion. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a recommandé à sa communauté de prendre en considération les enseignements de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il dit Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'a, c'est ceux qui sont sur la vérité, comme bien même tu es tout seul. C'est pas parce qu'on est nombreux qu'on est sur la vérité. Et c'est pas parce qu'on est peu qu'on n'est pas sur la vérité. Au contraire, le plus souvent, ceux qui sont sur la vérité, c'est une petite minorité. Allah n'a jamais loué la quantité. La quantité n'est pas louée dans les textes religieux. Le grand nombre, ce qui est loué, c'est la qualité. C'est d'être sur la vérité. Quand bien même on est peu nombreux. وَكَسَلَفِ الْأُمَّةِ. Et comme les pieux prédécesseurs de cette communauté, parmi les compagnons, leurs suiveurs, et ainsi de suite, parmi les hommes de science de la sunna. Donc, il termine cette citation Cheikh l'Islam Taymiyyah, en disant فَالثَّبَاتُ وَالْإِسْتِقْرَارُ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُنَّةِ أَضْعَافُ مَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَوَةِ. Donc la fermeté chez les suiveurs de la sunna et du hadith est beaucoup plus importante que la fermeté chez les gens de l'kalam et de la philosophie. Et de la philosophie. Je termine avec une phrase, une fin de la citation. On peut se poser la question, ça peut être un sujet d'une conférence. Qu'est-ce qui fait qu'une personne change de position et délaisse la vérité après l'avoir connue? Qu'est-ce qui fait qu'une personne délaisse la vérité après l'avoir connue? Il y a plusieurs causes et plusieurs raisons. Je vais vous citer quelques-unes d'une manière résumée. La première et la plus importante, c'est l'attachement à l'argent. Et au bien. Et ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui apprennent la sunna et qui arrivent à un niveau de science dans la sunna. Et quand ils repartent dans leur pays, par exemple, qui étudient ici en Arabie Saoudite, avec à l'université islamique de Médine, ils obtiennent des doctorats. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Et qui repartent dans leur pays, par exemple en Afrique, où les gens de science ne sont pas aidés par les États, ne sont pas subventionnés. Et ils sont face à la da'wa sans avoir d'argent. Et beaucoup d'entre eux faiblissent. Ils tombent dans les pièges des sectaires, car c'est eux qui donnent l'argent. Yani surtout, il peut avoir plusieurs enfants, plusieurs épouses, beaucoup de charges. Comment il fait? Bah, il tombe dans le sectarisme, hizbiya. Il y a énormément d'exemples en Afrique. Et d'une manière générale, dans les pays pauvres, où on ne soutient pas un prédicateur qui se consacre à propager la religion. C'est pour ça, avant, chez les musulmans, il y avait ce qu'on appelle l'awqaf, les legs religieux, qui étaient consacrés à financer un homme de science qui se consacre totalement à la science. Toute sa journée, c'est dans la science, l'apprendre et la propager. Ah, mais quelqu'un qui fait un cours par semaine, il n'y a pas besoin de l'aider dans ce sens-là. Chez les salafs, il y en avait qui travaillaient aussi et qui subvenaient à leurs propres moyens et qui consacraient le reste de leur temps à la science. Donc, dunya, l'argent. L'argent d'une manière générale. Aussi, l'amour de la célébrité. Et du statut. Regardez, Aïkhoa, peut-être dans votre ville, il y a des gens qui ont énormément de suiveurs, peut-être beaucoup plus de suiveurs que Cheikh Al-Fawzan, que Cheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali, rahimahullah. Et c'est des ignorants. Et ce que je dis, il ne peut le comprendre que celui qui a étudié Ulum Al-Ala. C'est avec ça qu'on reconnaît un étudiant et quelqu'un qui est ami. Celui qui n'a pas étudié le Nahou, qui n'a pas étudié le Sarf, qui n'a pas étudié le Balagha, qui n'a pas étudié Usul al-Fiqh, qui n'a pas étudié Usul al-Tafsir, qui n'a pas étudié Ulum al-Hadith, qui n'a pas étudié Usul al-I'tiqad, celui-là c'est un Ammi. Comme bien même c'est un Da'iya très connu, il a 1 million de suiveurs. Donc l'amour de la célébrité et du statut. Également parmi les causes, le suivi de la passion. Parmi les causes, la mauvaise fréquentation. Et parmi les causes aussi, et ça c'est pas négligeable, c'est l'arrogance et l'orgueil. Et l'amour excessif, l'amour de soi-même, l'autosatisfaction, la fatuité. Ça aussi c'est parmi les causes. Il ne revient pas à ce que disent les grands savants. Parce qu'il a, yani, il reste sur sa propre compréhension et sa propre réflexion. Alors que celui qui suit la sunna, il met en cause en permanence sa compréhension. Il revient à ce que disent les ulama. Voilà parmi ces causes-là. Inch'Allah, dans la prochaine rencontre, nous allons aborder le septième et dernier point, qui est une conclusion de cette risala très bénéfique et très profitable. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته